C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Un amour du travail, une mobilisation profonde, une implication intime, mais en pensant toujours au public de ses films, et surtout un plaisir, disait-il, à faire de la magie invisible. C'était Claude Sautet sur notre affiche ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Il est si bon, surtout en ce moment, de voir et revoir ses films. Autre temps, autre mœurs, mais plaisir intact parce que talent et sujet intemporel. Bonjour Jacques Fieschi.
Bonjour.
Réalisateur et scénariste, notamment pour Giannoli, Piala, Garcia, Fontaine, Assayas, Jaco et bien sûr Sautet. Vous avez accompagné Sautet dans sa maturité de cinéaste, dans cette trilogie de l'épure, pourrait-on dire. Quelques jours avec moi, Un cœur en hiver, Nelly et Monsieur Arnaud. Nouvelle équipe, nouveaux acteurs pour creuser son sillon et, disait Bertrand Tavernier, toujours privilégier les sentiments par rapport à l'intrigue. Bref, trois scénarios, trois films magnifiques et de grands acteurs au diapason de cette écriture. Merci d'être là ce matin, Jacques Fieschi, pour évoquer l'homme, le cinéaste et votre travail avec Sautet. Les films de Sautet sont tous disponibles en DVD, Blu-ray, coffret, tout comme ceux que nous allons vous recommander à la fin de cette heure. En attendant cette improbable date de réouverture des salles de cinéma, mais nous, nous restons ouverts.
Je me suis toujours considéré comme impuissant, incapable d'écrire. S'il fallait que je décrive ce qui se passe dans le plan tourné sur Piccoli avec ce qu'il y a avant et après, en littérature, c'est toute une maîtrise du langage que je n'ai pas. Quand je dois filmer, je peux contrôler tout, la lumière, les mouvements, le cadrage, l'expression, la vibration, mille choses qui ne se voient pas et qui existent aussi dans l'écriture, mais là, dans l'image, je le sens. Ce qu'on appelle le portrait physique en mouvement, ça, je pense que je le sais depuis toujours. C'est ce que j'aime, quoi. Les films dans lesquels je peux terminer sans dialogue, j'adore, je suis en pleine forme.
Claude Sautet, impuissant, incapable d'écrire, il était pourtant à l'origine de toutes ces histoires et dans tous les rôles qu'il concevait avec ses scénaristes. Jean-Loup Dabadie, Claude Néron, Jérôme Tonnerre et vous-même, Jacques Fieschi, avec ces trois films, je le disais, quelques jours avec moi, Un cœur en hiver, Nelly et Monsieur Arnaud. Vous avez participé à votre façon à la renaissance d'un cinéaste. C'est quelque chose, ça, quand même.
Oui, en effet, il semble que oui. Quand ça advient, on ne le perçoit pas vraiment. Mais on ne perçoit pas non plus la chance qu'on a. Ça, tout paraît normal, naturel, et ça ne l'est nullement. Pour moi, c'était quelque chose, oui, d'une chance, enfin, qui a déterminé mon travail, ma vie en profondeur.
Voilà. Vous avez eu l'impression de rencontrer un autre Sautet.
Bien, je le connaissais pas avant et étrangement, je ne l'avais pas parce que je faisais un peu ce que vous faites en ce moment, c'est-à-dire que j'étais critique et journaliste de cinéma et j'avais cette revue de cinéma qui s'appelait Cinématographe, mais je ne l'avais jamais lui interviewé alors que j'en ai interviewé pas mal, des Romères, des Truffaut, des Chabrol, des Carné, des Autant Lara, des William Wyler, enfin bon, mais pas lui. Et j'avais un
Pourquoi?
Parce que j'avais un rapport, d'ailleurs, il s'amusait avec ça, j'avais un rapport un petit peu ambivalent avec le cinéma de Claude Sautet. Et voilà, je le confesse.
C'est bien ce que vous voulez vous faire dire.
Et donc, il y avait des films de lui que j'aimais beaucoup.
Oui.
J'aimais beaucoup Max et les Ferrailleurs, j'aimais beaucoup Mado, j'aimais beaucoup Un mauvais fils.
Vous aimiez la vague sombre.
Voilà, j'aimais la vague sombre, et puis le début, j'aime Classe Tourisque.
La vague sombre encore.
Voilà, qui n'est pas non plus très rose. Et puis, il y avait un ou deux, trois que j'aimais moins. J'aimais pas beaucoup Une histoire simple, par exemple. Et j'avais écrit une petite note bien innocente et bien modeste, mais qu'il me ressortait régulièrement en disant, toi qui ce film que tu déteste, enfin bon, dont il me torturait gentiment avec ça.
Lui-même n'était pas d'ailleurs fanatique
pas,
du
il
film,
pas, oui.
Il trouvait que c'était le film de trop avec Romy Schneider.
Voilà, c'est ça, il l'a fait parce que, pour elle, et parce que elle lui a demandé, je crois, beaucoup.
Et pourtant, il vous repère dans une scène que vous avez écrite, police de Piala dans une dernière scène en voiture entre Depardieu et Marceau.
C'est pas la peine de continuer, c'est fini.
Mais non, c'est pas fini. Mais non.
Si. Je peux pas vivre avec toi, tu seras déçu. Je pourrais pas apporter à un homme ce dont il a besoin et... Et en plus, tu m'as appris à ne plus mentir, alors.
Mais je veux seulement que tu m'aimes. Je veux seulement que tu m'aimes.
Mais je suis peut-être pas capable d'aimer. Peut-être que je suis trop jeune.
C'est déjà aussi dur que les gens qui ont vécu. T'as pas de cœur. Tu te fous de tout. C'est comme une tour fermée. Il n'y a rien qui peut t'entamer, rien.
Vous dites à juste titre, Jacques Fieschi, que c'est la scène la plus sautée chez Piala.
Oui, mais c'était aussi tout à fait inconscient, parce qu'effectivement, cette scène...
Oui.
Bon, Police est un film qui a été écrit à plusieurs mains. Hein. Mmh. Bon, mais en fait...
mais cette scène-là, c'est vous qui l'avez écrite.
Ah oui, c'est moi, oui. Moi. Et parce qu'il fallait bien finir ce film. Hein.
Ah oui, c'est
Police,
ça.
Qui était un très beau film, bien sûr, mais qui était comme une espèce de chantier en progrès constant dans le tournage, mais où il n'y avait pas vraiment, enfin, pas mal de fins ont été envisagées. Et bon, finalement, j'avais proposé ça à Maurice et à Sylvie Piala. Et c'est ce qui a été adopté. Et puis, donc, Sauté m'a demandé, mais est-ce que c'est vous qui avez écrit la scène de Police? Alors, je dis oui, ça, c'est moi.
Ouais.
Et dans ce cas, on peut essayer de travailler ensemble. Et effectivement, c'est ce que je pense, c'est que ça ressemble au toit que j'eusse aimé. Mmh. On est dans une voiture, un homme et une femme.
Ouais.
Et c'est peut-être la seule scène, peut-être, de Piala qui est assez proche de l'univers de Sauté, enfin, de sa manière. D'ailleurs, j'ai essayé de les réunir à un moment donné de leur vie. Et ils étaient désireux de le faire. Piala aussi, sautait très, très désireux. Mmh. Et puis finalement, Piala s'est désisté parce qu'en fait, il sortait du Garçu qui n'avait pas été un succès, tandis que Sauté lui avait fait Nelly Monsieur Arnaud, qui en était un grand, enfin voilà. Et donc, enfin, je crois que c'était pas le bon moment.
Jean-Louis Dabadie évoquait avec Sauté un travail debout et un travail assis, c'est vrai? Un travail debout pour discuter de l'intrigue et un travail assis pour écrire.
Alors, j'ai pas vécu cette dichotomie de façon aussi précise, pour dire la vérité.
Mais bon, c'est vrai qu'il écrivait pas, il tournait en rond.
Il était parfois assis aussi.
Oui,
il avait pas le diable au corps,
non.
Il n'était pas possédé, mais enfin, il fallait se lever, tourner en rond avec le cigarillo, et puis, s'emporter sur, soit dans l'émotion d'une scène, soit dans le refus de quelque chose. Voilà. Bon, il y avait ça. D'ailleurs, c'est une chose qui m'a communiqué aussi, parce que moi aussi, je dois me lever et je dois un peu parler le film en m'agitant un peu. Autrement, la situation assise est un peu prosaïque et stagnante, un peu par rapport au progrès du film.
Sauté a été mis en scène par Tavernier à travers Michel Piccoli dans Des enfants gâtés.
Oui.
J'ai trouvé une carte de Saint-Étienne en grand. Puis la lampe.
Ah, vas-y, non, tant mieux, parce que là... Tiens, l'autre jour, j'ai entendu une phrase que j'ai trouvée formidable. C'est curieux, à Berlin, les cimetières sont plus froids qu'ailleurs. C'est beau.
Oui.
C'est vraiment beau, sinon je sais pas où la caser.
Donc, j'ai trouvé un truc, moi, pour changer complètement le début, là.
Ah ouais?
Oui. Il n'y a plus la femme au début, là, dans le commissariat, hein, qui annonce la fuite d'Antoine. Parce que ça n'a jamais été bon, ça. Non, écoute, voilà. Au début, c'est Antoine, seul. Dans sa bagnole, sur la route, comme ça, en pleine campagne. Et on l'arrête. C'est un barrage de police, parce qu'il y a eu un accident.
Mm-hmm.
Là, il descend. Il descend comme ça pour voir. Hein.
Ouais.
Et, il y a eu un quart de môme qui est tombé dans un ravin et qui a brûlé 40 gosses.
Il y a des morts,
hein, mais, à la vache. Mais j'en sais rien s'il y a des morts.
Ah bah écoute,
j'en sais rien. C'est l'accident. Peut-être qu'il y a des morts. Peut-être, mais non, il y a accident. Hein? Alors, les morts, on verra après. Voilà. Hein? Pour l'instant, on enlève les corps.
Jacques Fieschi, c'était comme ça les sciences avec ce
texte. Michel Aumont, c'est vous. Dans le,
oui, Michel Aumont, bon, oui, j'ai reconnu la voix de Michel Aumont.
Ouais.
Oui, ça pouvait être ça à un moment donné. Bon, enfin, c'était pas ça continuellement. Autrement, ça aurait été même une caricature invivable. Non, non, il y avait des moments de pause, il y avait des moments de réflexion, et puis il y avait des moments où ça s'agitait, où ça se précipitait, et effectivement, la voix partait fort comme ça.
C'est vrai qu'il disait beaucoup à la vache quand il trouvait pas. Oh la vache.
Oui, la vache. Il disait ça, oui, la vache.
Mais le ressembleur de scénario, hein.
Ah oui,
il y avait une antériorité là, sur ce sujet. Très fort.
Mais alors là, j'étais pas là, non, je ne sais pas. Moi, je sais qu'effectivement, il a collaboré à beaucoup de scénarios, qu'il a ressemelé, le mot est un peu, oui, voilà, est-ce qu'il est, mais enfin bon, qu'il a porté des idées, je pense que c'était oral, je pense pas que c'était un arme d'écriture.
Oui,
par contre, je sais que j'ai travaillé différemment de ceux qui m'ont précédé, je sais que par exemple, ils allaient travailler dans ce petit studio qu'il avait rue de Ponthieu, où il y avait un tableau noir avec des graphiques et des flèches et quelques phrases.
C'est ce que reprend Tavernier.
Voilà, moi j'ai jamais travaillé comme ça. Tous les films que j'ai fait avec lui ont été écrits chez moi, rue Greuze en l'occurrence. Il aimait bien cet appartement, il aimait bien venir, il venait le matin, et il y avait une pause déjeuner, et puis après il repartait avec ses feuillets, ou pas de feuillets, le soir.
Donc ce premier film avec lui, donc quelques jours avec moi, il y avait un désir de renouvellement, et surtout l'impression qu'il était allé jusqu'au bout de quelque chose avec Garçon. Donc vous êtes parti d'un court roman de Jean-François Jocelyn, donc, à partir de là vous avez tenté un mélange des genres, plus comique, plus grinçant, des choses qui s'était interdit avant. Donc c'est l'histoire de ce rejeton de famille dirigeant d'une grande chaîne de magasins Martial. C'est Daniel Auteuil, sort d'une cure de repos pour dépression et que sa famille l'envoie faire une tournée en province et notamment à Limoges. Et si on commençait par cet extrait, parce que c'est quand même ce film une critique aussi de la bourgeoisie parisienne et provinciale, Jacques Fieschi.
Oui, oui, bien sûr, c'est une critique. C'est forcément
Martial,
c'est forcément une critique, une satire. Mais si on n'est que dans la charge, dans la satire, on n'a pas fait grand-chose, à mon sens. Donc c'est ambivalent et c'est bien sûr que c'est parodique et qu'on s'amuse avec ces personnages.
Mais bon, laissez-nous nous amuser avec vous, avec cette scène qui est absolument géniale, qui est un dîner où flamboie Jean-Pierre Marielle.
Il n'y en a que pour Paris.
Est-ce que vous voulez dire que...
Je veux dire que la province reste la province.
Bon, mais tu dis n'importe quoi, c'est exactement le contraire. Écoute, nous sommes en pleine décentralisation.
Mais ce sont des mots, dans les faits.
Les choses sont longues à installer. Non, mais il n'y a rien à faire, elle s'entête.
Par exemple, moi j'aime l'opéra.
Ben, enfin, on en voit tout le temps à la télé.
Oui, mais ça n'a rien à voir. Pour moi, l'opéra, c'est un spectacle total, vivant.
Écoute, Irène, tout le monde n'est pas obligé d'être opératomane. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est devenu une mode, hein, un must.
Pas pour moi, Raoul. Tu le sais. J'ai toujours aimé entendre les grandes voix.
Ma sœur se prend pour Jeanne d'Arc.
Allons, Roger.
En tout cas, ici, nous manquons de crédit culturel. Personnellement, je détestais l'ancienne majorité. Et Dieu sait que j'ai fait campagne contre eux. Mais pour le théâtre, pour la maison de la culture, je dois reconnaître qu'ils n'étaient pas si mal.
On vous a hâte, madame Confoin. On ne peut pas indéfiniment arroser d'argent des gens qui vous tendent la sibylle d'une main et qui vous traitent de fasciste de l'autre.
Pour moi, ces notions de gauche et de droite sont totalement dépassées. Oui, je sais que je fais sourire ma petite Régine, la gauchiste de la famille, mais personnellement, j'ai toujours été socialiste et partisan d'une économie libérale.
Il y a des sensibilités et des courants d'opinion, bien sûr. Et heureusement...
En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la fin des idéologies et des systèmes. Et ça, c'est important.
Oui, mais c'est vrai que...
À partir de quoi? Mais sommes-nous assez adultes politiquement? Ah, nous devrions dégager un large consensus national.
Ne coupons pas la France en deux.
Non, je suis navré, ma petite Régine, mais sans consensus, pas de Limousin, pas d'Occitanie, pas d'Hexagone et pas d'Europe, c'est clair. Excusez-moi, madame Mayotte, je vous ai interrompu. Vous vouliez dire quelque chose?
Oui. Je me souviens plus.
Jane a toujours eu du mal à se fixer sur un discours un peu abstrait.
Oh, elle n'est pas la seule. Mais vous n'avez rien mangé. Vous n'aimez pas la crème renversée?
Non.
Vous voulez un fruit, peut-être?
Non, non, merci, vraiment.
J'ai peur que nos discussions provinciales vous embêtent un peu.
Tu veux dire qu'il s'est copieusement emmerdé?
Ah non, pas du tout, au contraire. Ce récital de lieux communs éculés m'a tout à fait intéressé. C'est vrai, c'est tout un art de débiter des vérités premières. La rapidité des répliques, le timbre des voix. Ça devient comme une sorte de musique rassurante. Un peu comme quand on est à l'étranger, qu'on ne comprend pas la langue. Regarde les visages.
Grand dialogue et grands acteurs, Jacques Fieschi.
Oui, il y avait un magnifique casting, en effet, magnifique casting. Oui, avec, comme j'ai fait le tournage de ce film.
Ah oui?
Oui, parce que Sauté me l'avait demandé.
D'accord.
Alors, à dire, je ne servais plus à grand chose. Enfin, parce que tout était tellement précis et écrit. Ouais. Mais il m'avait dit, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais être un intrus. Même si on a écrit quand on est scénariste sur un tournage. Sur un tournage, il faut quelque chose de très concret à faire. Ouais. Autrement, on est en important. Et d'ailleurs, on vous regarde de travers, même si vous avez écrit toutes ces répliques. Voilà, il m'a dit, ben, tu seras là, et puis à un moment donné, si tu vois qu'il y a des choses à me dire, qu'on n'a pas assez fouillé, creusé, tu me diras. Voilà. Donc j'ai fait tout le tournage, et parfois j'ai dit deux, trois choses, effectivement, et c'est moi qui ai beaucoup appris. Parce que justement, il y avait une distribution extraordinaire de grands acteurs, et je voyais bien à ce moment-là... comment vivent les répliques quand elles sont jouées, quand elles sont portées comme ça, quand elles s'accomplissent. Puis c'est une leçon parce qu'il y a des répliques dont on attend beaucoup et puis finalement ça fait pchit.
Ouais.
Et puis des choses très simples comme ça qui ont l'air banales et qui elles s'épanouissent justement et prennent corps et donnent de l'émotion ou de la drôlerie. On apprend sur un tournage. J'ai eu de la chance parce que j'ai fait le tournage de Police et le tournage de Quelques jours avec moi au début de ma
carrière.
Dite carrière, voilà. Et que ça m'a beaucoup, beaucoup appris.
Il faut juste dire que ces crétins magnifiques qu'on vient d'entendre, ils se révéleront aussi plein d'humanité. C'est ça la subtilité, la complexité du film. C'est qu'à la fin, notamment, Marielle, on va pas le dire, mais aura l'une des plus belles répliques courtes, ô combien courtes du film. Donc voilà, donc cette évolution, elle est magnifique.
Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la satire ou à la critique sociale. C'est-à-dire que si ça n'est que ça, bon, ok, on a compris. Ou alors il faut faire un jeu de massacre porté par un projet profond comme Brecht par exemple. Là c'est justement c'est des personnages qui se nuancent, qui se modifient.
Et puis c'est la naissance d'un personnage sombre incarné par Auteuil qui va ensuite être développé dans Un cœur en hiver quand même.
Mais lui le personnage est central.
Oui.
Donc ce personnage on le suit, on le suit dans son mystère.
C'est notre guide.
Voilà. Tandis que les autres qui sont très importants dans Quelques jours, particulièrement Marielle, mais tous les autres. C'est une espèce de constellation, c'est une sorte, comme l'a dit Maille de Fer autour de l'aimant, mais eux vont bouger aussi. Voilà. Et ça, c'est très important de donner une complexité à des personnages qui, a priori, pourraient être des marionnettes ou simplement des têtes à la foire de jeux de massacre, quoi.
Quand vous êtes sur le plateau et ils sautaient, répète le texte avec eux, le dit les dialogues ou pas?
Non, le texte, il le savourasoie parce qu'il rentre dans une sorte de messe, les acteurs.
Mais comment il les dirige? Comment il est avec eux?
Il les dirige pas tant que ça, pour dire la vérité. Il les met dans une certaine situation normalement, à partir du moment où le choix est bon, ça va aller. Il n'a pas besoin de faire de mimer les scènes. J'ai vu à Hollywood quelqu'un comme George Cukor, qui était un grand directeur d'acteurs, mais il mimait tout, il jouait tout, des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes, etc. C'était pas ça, Sauté. C'est quand quelque chose ne passait pas assez, à ce moment-là, il intervenait et il pouvait dire deux, trois choses. Il les mettait dans cette espèce de Kammerspiel de la mise en scène. Et donc, à ce moment-là, il leur imposait, c'est pas le mot, parce que malgré tout il les aimait, donc c'était pas quelque chose de punitif, une sorte de rigueur qui faisait qu'ils étaient au mieux, quoi. Voilà. Et de temps en temps, quand c'était décalé, il a eu du mal avec Céro,
oui, ça, oui.
Tiens, on va écouter justement Daniel Auteuil sur le fameux comportement, parfois, de Claude Sautet sur un plateau.
C'est un gros affectif. Donc c'est ça qui l'emporte, vous voyez. Donc je veux dire qu'il est assis là, devant la caméra sur un cube, et il pleure, il rit ou il gueule. J'y pense encore aujourd'hui, c'est-à-dire quand il avait besoin de crier, c'était son truc, donc il sortait du plateau et il criait, et je l'entendais crier hors du plateau, « Ce petit con veut pas que je crie, mais j'ai besoin de crier !» Et voilà, donc si vous voulez, c'est... je lui dis « Bon, bah écoute, si tu veux, crie, qu'est-ce que je te dise ?» Parce que... voilà, si c'est comme ça. Non, c'était un grand violent, mais c'était à pisser de rire. Je veux dire, quand il était en colère, c'était à pisser de rire aussi.
Daniel Auteuil, grand acteur de Sauteuil, donc on retrouvera 4 ans plus tard, vous retrouvez Sauteuil, Auteuil et un cœur en hiver, inspiré au départ d'une nouvelle de Mikhaïl Lermontov, un russe,
oui.
Un héros de notre temps, la princesse Marie, un homme qui séduit une femme sans l'aimer, sans l'aimer par rapport à un troisième homme, c'est pas une histoire un trio, donc un homme et une femme s'aiment, c'est Maxime qui dirige une lutherie, c'est Dusselier, et Camille, violoniste talentueuse, c'est Emmanuel Béard, et un amour mis en danger par Stéphane Maître, artisan très solitaire. Je vous propose d'écouter une première scène du dîner entre les deux, où elle a des sentiments pour lui, mais lui ne les avoue pas.
Pourquoi vous me fuyez ?
Je ne vous fuis pas.
Je sais pas, j'ai dit ou fait quelque chose qui vous a déplu.
Pas du tout. J'ai eu beaucoup de travail.
J'avais l'impression que ce que je faisais vous tenait à cœur, que vous vouliez suivre tout ça. C'est à cause de Maxime.
Maxime ?
Vous pourriez avoir un scrupule à cause de votre amitié.
Il n'y a pas d'amitié entre Maxime et moi.
Pas d'amitié.
Non. Nous sommes des partenaires. Depuis toutes ces années, on se complète. C'est l'intérêt de chacun, bien compris. Rien de plus.
Mais lui, vous considère comme son ami.
Je ne peux pas l'en empêcher.
Je ne vous crois pas.
Pourquoi ? Peut-être parce que ça ne se dit pas. Mais c'est vrai. C'est banal, même. Vous trouvez ça choquant ?
Non.
Ce qui serait triste, ce serait de se tromper de mots.
Mais justement, ce que vous dites, ce ne sont que des mots. Cette façon de tout réduire. Vous protégez de quoi ?
Là, il me semble plutôt que je m'expose.
Vous n'êtes pas comme ça, parce que personne n'est comme ça. Ça n'existe pas. C'est une attitude.
Qu'est-ce que vous voulez ? Que je m'invente des raisons, des traumatismes ? Une enfance malheureuse, une frustration sexuelle ? Une vocation suspendue ? Non, je vois pas. Mais c'est vrai que mes frères et sœurs me trouvaient d'un naturel sournois et dissimulé. Et je le reconnais volontiers.
C'est curieux le plaisir que vous prenez à me donner de vous une image désagréable. C'est un peu facile, non ?
Un peu. Excusez-moi.
Vous faites comme si les émotions n'existaient pas. Mais la musique, vous l'aimez ?
La musique, c'est du rêve.
Il est insondable, ce héros de Jacques Lesky dans Un cœur en hiver.
Oui, il a été très difficile à écrire.
Est-ce qu'il est vraiment différent ? Est-ce qu'il joue un jeu ? Est-ce qu'il a peur de l'amour ?
C'est resté un mystère pour nous-mêmes. Et d'ailleurs, je vous ai raconté un peu comment ce film s'est écrit. Enfin, ce personnage s'est écrit. Au départ, donc, il y avait ça, c'était Philippe Carcassonne qui avait fait lire... le héros d'autre temps, enfin ce chapitre qui en fait il y a peut-être 25 pages, donc c'est pas une adaptation du tout littérale, mais enfin il y a quand même là-dedans je ne vous aime pas. Oui. Bon, donc ensuite on est parti de là et on a travaillé, il y avait Jérôme Tonnerre qui était là encore à ce moment-là et on a fait un traitement de 25 pages comme on faisait toujours avant d'aborder le scénario dialogué. Et puis bon, ça avait l'air, ça avait l'air de passer, c'était comme une nouvelle, pas trop balancée, voilà. Et puis donc les gens ont dit bon, écrivons le scénario. Et à ce moment-là, ça a été la panne totale. On écrivait des scènes avec Jérôme Tonnerre, ça ne valait pas grand-chose. Il nous le disait, donc on les jetait à la peignée. Mais il n'y avait pas non plus d'autres idées à suggérer. Et surtout, on se demandait pourquoi ce gars-là, et qu'est-ce qu'il avait, c'était quoi son problème ? Il était impuissant, homosexuel, méchant comme la gale. Enfin bon, c'était quoi ? Bon. Et d'ailleurs, Jérôme Tonnerre lui a cessé de se le demander parce qu'il a trouvé qu'il n'y avait pas de personnage et pas de film. Donc à ce moment-là, il est parti. Et Claude et moi, on a continué. Et on a cessé de se demander pourquoi il faisait ça. Et on est entré dans ce personnage on ne s'est pas laissé porter, ça ne veut rien dire, mais enfin il y a quelque chose qu'on a accepté en profondeur de son mystère. Et donc, on s'est mis à explorer ce mystère.
Un peu comme un romancier dont le personnage lui échappe.
Quelque chose comme ça. Oui. Mais néanmoins, il m'avait demandé, alors on tire toujours un peu la couverture à soi, c'est une chose humaine, n'est-ce pas? je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas par une voix off? Et il m'a dit, essaye. Et donc, j'ai écrit cette voix off qu'on entend au début du film, sur le rapport des deux hommes, vu par Auteuil, qui est repris un peu dans cette scène-là, qu'on vient d'entendre.
Qui est un procédé truffaldien.
Bien sûr, classique. Et donc, j'ai rendu ma copie, et il m'a dit, ah oui, c'est ça. Il a simplement barré la dernière phrase, que j'ai complètement oublié, mais qui devait être trop explicite, je sais pas quoi, il a gardé ça. Et à partir du moment où il y a eu ce ton-là, ce ton en biais, ce ton bizarre, ce rapport au monde étrange, comme ça, et assumé d'une certaine manière, le personnage est venu, et le film avec.
Vous êtes un rock, quand même, face à des personnalités pareilles. C'est vrai, il faut résister à tout ça. Tonnerre est parti, vous restez.
Il faut résister à tout ça. J'ai été un petit peu dressé à l'école Piala, donc à ce moment-là, on peut.
on résiste pas.
on sait qu'il y a une difficulté, il y a une violence. De toute façon, Sauté n'était pas quelqu'un. Il n'y avait aucune perversité en lui. C'est pas quelqu'un qui voulait vous sadiser ou vous punir ou vous humilier.
Non, il
ne l'avait
pas trouvé. Juste.
Voilà. Ouais. Simplement, il vous associait à cette espèce de rage et voire de l'impuissance parfois de l'expression comme c'est normal.
Voilà. Cette rage de Emmanuel Béard dans cette scène justement par rapport à Daniel Auteuil, elle arrive, elle est un peu saoule.
Oui.
Je peux pas. J'y arrive pas. On peut pas en rester là. Je peux pas l'accepter. Mais dites quelque chose.
Camille, je vous ai dit la vérité.
Vous savez bien que non. Quand vous êtes venu me voir au studio, quand il pleuvait, j'ai pas rêvé. Votre attention.
C'est mon métier.
Dites pas que je suis n'importe quel musicien qui passe à l'atelier pour réparer une corde.
Non, bien sûr.
C'est façon de me regarder.
J'étais sincère.
Tout ce que nous nous sommes dit.
Mais nous ne nous sommes rien dit, Camille.
Mais si. Alors c'est moi qui... Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais pourquoi?
Je vous ai dit pourquoi.
Mais si c'était un jeu, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait me baiser. Vous auriez été un salaud, mais au moins c'est dans la vie.
Camille, arrêtez.
Mais là, c'est rien! Vous n'êtes rien! Ça vous gêne qu'on nous regarde? Faut pas, mon vieux, si ça les amuse. Il est là, tout étriqué sur sa chaise. Voudrait bien être ailleurs, hein? Ah, il paraît qu'il aime la musique. Parce que c'est du rêve, la musique. Parce que ça n'a rien à voir avec la vie. Mais le rêve, pauvre type, c'est pas ce que c'est. T'as pas d'imagination, pas de cœur, pas de couilles, pas de sève. Y a rien là-dedans. Y a vraiment rien!
Il n'y a rien là-dedans, vous y teniez à cette... Oui, et lui, il ne la voulait pas.
Non, la première version, parce que voilà, on parlait de la scène, et ensuite, moi, j'écrivais de mon côté, puis je rendais ma copie. Et puis, à ce moment-là, on rebalançait la scène. Son accueil pouvait être bon, moyen, ou pas bon. Mais enfin, bon, après, c'était oralement repris entre nous pour une version, une seconde. Et donc j'avais mis cette phrase il y a vraiment rien là-dedans, rien du tout, qui s'accompagnait d'un geste assez explicite sous la table. Et il m'a dit non, ça c'est pas possible. Alors je dis mais non, moi il me semble que ça fait partie de la scène, ça fait partie de ce qu'elle peut lui dire et la question qu'on peut se poser en effet sur lui. Question qui d'ailleurs n'aura jamais de réponse. Enfin bon, en tout cas dont l'existence me semble-t-il était nécessaire. Et il m'a dit, non, ça je peux pas. Et puis, il est parti avec ses feuillets, il est revenu le lendemain. Et la première lectrice, c'était sa femme, Graziella.
Oui.
C'est son premier public. Et à mon avis, elle donnait un avis très précis sur ce qui sonnait juste, censément, un point de vue du féminin, peut-être ça, ce sont des vieux clivages qui n'ont plus cours. Et bref, les clichés, voilà. Et donc, le lendemain, il est revenu avec la... avec la scène, et puis on a continué à la rebalancer, parce que c'est une scène longue, etc. Mais il laissait cette phrase-là, il la lisait, il n'en parlait plus, moi non plus, parce que je voulais la garder, donc je voulais pas aborder le même, la question de sa nécessité ou pas. Et donc, on a travaillé encore 2-3 jours sur cette scène, et puis c'est passé, et puis il l'a tourné, et finalement, je pense que c'est pas mal que ça y soit.
Mais le choix d'Auteuil, ce personnage opaque, il a été fait tout de suite, vous avez écrit pour Auteuil?
Non, pas au début. Pas le personnage de Quelques jours avec moi. Parce qu'en fait, il faut bien dire que le personnage de Cœur en hiver parachève, enfin, c'est complète, explore le personnage. Auteuil n'avait jamais joué de ce genre de rôle. Il avait eu à ce moment-là un grand succès. C'était un acteur comique, marrant, qui jouait des très bons acteurs.
C'est une charnière dans sa carrière incroyable.
À part le Claude Berry qu'il avait.
Alors il venait de faire le Claude Berry, qui en a fait une grande vedette. Oui. Voilà. Et donc à ce moment-là, mais au départ c'était pas pour lui. Le film a été proposé à Michel Blanc.
Oui.
Michel Blanc l'a refusé. Mm-hmm. Ensuite, il a été proposé précisément à Daniel Auteuil, qu'il a également refusé, il faut bien le dire. Mmh. Et donc, à ce moment-là, on était très, très embêtés. Oui. Parce que, sautait, ne savait plus à qui s'adresser. Et comme il n'avait pas tourné depuis quelques années, c'était un petit peu humiliant pour lui. Mais, à ce moment-là, je suis ami depuis l'adolescence avec Brice Lucchini, donc j'ai proposé Lucchini. Mais Lucchini n'était pas la vedette du tout qu'il est devenu ensuite. Et il y a eu un dîner avec Lucchini qui s'est pas mal passé. Mais ensuite, Auteuil est rappelé en disant « c'est moi, je vais le faire, je me suis trompé ». Et ça a été une superbe collaboration.
Ouais. On arrive au dernier film, Nelly et Monsieur Arnaud. D'ailleurs, oui. Question, savait-il que ce serait le dernier, à votre avis ?
Je ne sais pas s'il savait, il n'a pas fait ça dans une programmatique terminale, non. Mais enfin, disons qu'il y avait quelque chose quand même qui était pour la première fois lié à l'âge. C'est un personnage âgé. Les personnages âgés avant étaient secondaires.
Oui.
Ce sont des pères, comme Jean-Paul Moulineau, qui est bien d'ailleurs dans Mado, ou Maurice Garrel, père de substitution. Yves Robert, superbe. Ça, c'est un rôle d'important, c'est vrai. Mais c'est pas non plus c'est un homme qui est encore dans la force de l'âge. Yves Robert, il a une femme, il a une sexualité, tandis que, Michel Serrault, qui d'ailleurs était pas si vieux à l'époque, mais enfin, qui était plus dans ce registre-là, disons possiblement. Et donc c'était en soi, c'était un désir autobiographique, pas du tout littéral. Une fois de plus, il m'a dit je veux faire un film sur un homme âgé et puis une jeune femme. Voilà ce qu'il m'a dit au départ, c'est tout.
Et il voulait pas de Serrault au début, Sautet.
Il voulait pas de Serrault, il avait peur de Serrault, etc. D'ailleurs, le résultat était formidable, mais il avait peur de Serrault, il avait peur de la façon dont Serrault pouvait éventuellement, avec son grand talent d'acteur, manquer de la rigueur nécessaire dont il avait besoin, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de placer, c'est pas emphatique, c'est pas une messe, mais enfin, c'est pas le mot, mais c'est quand même cette extrême rigueur de la métrique de la mise en scène et il voyait le Serrault de chez Mocky, etc. qui improvise, qui dit eh non madame et voilà, et tandis que là c'était pas du tout
ça
qu'il
voulait.
La cage aux folles. Mais alors donc il y a eu pendant 2-3 semaines une espèce de bras de fer qui n'a pas été c'est pas passé avec des cris ou des hurlements, mais quand même chaque fois non, pas ça, alors là c'était pas non. Pas de rajout, non, le texte, cette syllabe, ce temps, ce silence, ce tempo-là, parce qu'il y avait une respiration dans les scènes, et cette respiration qu'il cherchait dans les scènes et qu'il voulait retrouver à la mise en scène et avec les acteurs.
Justement, là, vous avez choisi cette scène, on va terminer avec elle. Ce sont les adieux, justement, très sobres entre Nelly et Monsieur Arnaud.
Tout y est, mon passeport.
Je descends.
J'arrive.
Au revoir, Nelly. Merci pour tout.
Au revoir. Bon voyage.
Ah, de la Bella, je m'en suis occupé. S'il débarque, ne le laissez pas vous taper. Il est très fort. Je vous écrirai. Vous n'êtes pas obligé de me répondre.
peux vous prévenir plus tôt.
Peut-être, oui.
Pardon. Je pensais à moi.
Vous allez trop tard. Vous oubliez votre sac.
Magnifique dernière scène de Nelly et Monsieur Arnaud. Jacques Fieschi, vous restez avec nous. D'ailleurs, on attend la sortie de deux films que vous avez écrits. Amant de Nicole Garcia et Illusion perdue de Xavier Giannoli.
Oui.
Mais là, aujourd'hui, on parlait des trois derniers films de Claude Sautet. On se retrouve donc après Paul McCartney.
Quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos, content frozen ice. When the cold days come and the old ways fade away, there'll be no more sun, and we wish that we had held on to.
Fermés, nous restons ouverts, Laurent, et nous avons plein de choses
oui.
à proposer, des livres, ou plutôt une revue de presse pour l'ancien rédacteur en chef de Cinématographe.
Voilà, spécial dédicace à vous, Jacques Fieschi, parce que vous avez été pendant 10 ans rédacteur en chef de Cinématographe, on s'en souvient. C'était une revue, bon, on va dire, entre les cahiers positifs, on peut dire ça, hein, comme ça.
Oui, on avait trouvé une certaine place.
Un créneau, absolument. Oui, voilà. Oui, mais... Bon, alors on va parler de ceux qui y sont restés, ben, notamment les cahiers qui fêtent leurs 70 ans avec le numéro 775. Une belle sélection de 70 films en dehors de leur sentier balisé, Truffaut, Godard, Hitchcock, etc. Les rédacteurs se sont donné un petit peu de mal pour retrouver des films aimés par la revue, mais un petit peu tombés dans l'oubli, des films de Devers, de Skolimowski, de Jean-Claude Biette, de Marco Bellocchio, de Ferrara, de Jean-Daniel Paulet. Donc voilà, ça donne un bel éclairage sur ce qu'est aussi cette revue. Et puis, il y a un entretien formidable avec Jim Jarmusch, qui se termine ainsi. Une partie de moi-même veut tout quitter pour aller vivre comme un pecno dans les bois, et c'est précisément ce que j'ai fait cette année. Mais l'autre s'obstine à vouloir faire de la musique et à filmer. Voilà, belle déclaration de Jarmusch. Alors la seconde revue c'est positif, l'autre, voilà, donc numéro 722 cette fois, avec tiens donc, des articles sur Chabrol et Truffaut revisités, et puis un très bel ensemble sur David Lynch intitulé très joliment l'homme d'un autre endroit. Autre revue beaucoup plus nouvelle, parce que heureusement il y a des nouvelles revues aussi, la 7e obsession numéro 23. Très bel entretien avec Michael Mann, intitulé Le cinéaste architecte. Et du coup, eh ben, il y a aussi un très très bel ensemble sur architecture et cinéma. Quel sujet, quel beau sujet. Avec évidemment des éclairages sur Carax, Tati, Fellini, Coppola, De Palma et beaucoup d'autres encore. Parce que c'est effectivement le lien entre architecture et cinéma. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est fructueux. Dernière de ces quatre revues sur lesquelles on voulait attirer votre attention, c'est Bref, numéro 126. Bref, c'est le meilleur du court-métrage. Chez le sous-titre de la revue, de cette revue là aussi très intéressante et qui cette fois donne la parole notamment à des comédiens et des comédiennes qui passent à la réalisation, Alice Labed, Noémie Merlant, Clémence Poésie, Pascal Cerveau et Antoine Chappé notamment. C'est très intéressant évidemment d'avoir leur avis et leur regard sur ces comédiens qui deviennent cinéastes.
Deux DVD, à commencer par Je suis un aventurier, 1954, Anthony Mann, quatrième des cinq westerns qu'il a fait avec James Stewart, pour une fois dans un rôle de... pas dans un héros positif.
Mais non, exactement. Et ouais, c'est Sidonis qui nous régale avec ce combo Blu-ray DVD. Peut-être le meilleur western d'Anthony Mann, ça après, bon, enfin, on pourra faire des comparaisons, etc. Mais en tous les cas, un magnifique, effectivement, western sur fond de chercheur d'or, avec, effectivement, James Stewart dans ce rôle de héros capable de faiblesse, individualiste à souhait, qui est parfois lâche, qui est parfois faible. Et ça, c'est évidemment passionnant, et dans la carrière de Stewart, et pour ce film en particulier. Il y a des introductions de Bertrand Tavernier et de Patrick Brion qui sont évidemment très éclairantes. Un livret signé Marc Toulet qui revient sur Stewart et sa carrière. 144 pages sur Stewart et le western. Là aussi, c'est tout à fait à la hauteur du film d'Anthony Mann. Je suis un aventurier et c'est chez Sidonis.
L'autre film qu'on recommande, c'est Les Granges Brûlées, 1973. Un film de Jean Chapeau. Chez Quoi Nuire, elle, signoresse et Rose, maîtresse femme dans cette ferme du Haut-Doubs qui règne sur sa tribu. Et lui, bien sûr, c'est le juge d'instruction. C'est Delon qui enquête après le meurtre d'une jeune femme poignardée.
Exactement.
Duel au sommet, un peu. Hein.
Duel au sommet, mais intéressant parce que très simnonien. C'est-à-dire que c'est un duel au sommet, mais du coup, quand même, Jean Chapeau a réussi à tenir les deux monstres en laisse, en quelque sorte. Et c'est la confrontation est magnifique.
Je crois qu'il a eu du mal. Pardon, vous interromps.
Il a eu du mal, certainement. Mais il y arrive. Je trouve qu'au final, il y arrive. Et en fait, dans ce décor incroyable du Haut-Doubs, c'est une ferme prise dans la neige. On pense dans un autre environnement géographique à l'affaire de Minici, bien entendu. Et c'est aussi édité, il faut le dire, par dans la collection de Coin de Mire qui nous permet, c'était le bon temps, de revenir dans les salles de cinéma parce qu'il y a un vrai programme. On voit les publicités de l'époque, on voit les journaux de l'époque. Bref, on est plongé en voyant ces granges brûlées dans ce qu'était une salle de cinéma. Au moment où, en 1973, on pouvait voir le film de Jean Chapeau, Les Granges Brûlées. Je rappelle que c'est chez Coin de Mire.
Je voulais indiquer deux choses à la télé. D'abord, ce doc Covid-Wood, l'année où Hollywood s'arrêta, un doc signé Didier Alouche, notre cher correspondant à Los Angeles, est diffusé sur Canal+, à partir de lundi, et puis après plein de rediff et de replay. Il analyse finement, Didier, les effets de la crise Covid qui a notamment coûté 92 000 emplois à l'industrie, à l'industrie américaine du cinéma, des centaines de salles fermées. Vous vous rendez compte qu'il y a plus d'un milliard d'humains qui est abonné désormais à une plateforme de streaming. C'est complètement fou. Il interviewe des patrons de studio, des réals qui analysent ce changement profond avec les sorties décalées. Et c'est sûr, le cinéma va changer dans sa façon de faire, de montrer et d'être. Et cette question, l'ADN des histoires sera-t-il désormais différent? Covid-Wood, l'année où Hollywood s'arrêta sur Canal+. Et puis, ce doc sur Arte, Dr. Jack et Mr. Nicholson. La face claire et la face sombre, un portrait de l'acteur américain en profondeur. Ses failles, le secret familial révélé ici, ses choix de grands films d'auteur, ses refus, le parrain, l'arnaque, sa liberté, ses exigences d'argent et son échec de réalisateur. Des beaux documents, notamment sur le tournage de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Dr. Jack et Mr. Nicholson sur Arte. Et sinon, on va terminer par un cadeau pour notre invité.
De Rossellini, sinon rien pour vous, Jacques Fieschi, c'est chez Tamasa, deux combos Blu-ray DVD. L'un est très connu, l'autre moins. L'un est sur un registre dramatique, l'autre sur celui de la comédie et de la farce. L'un est avec Ingrid Bergman, l'autre avec Toto. Et ben voilà, vous les avez sous les yeux.
Europe, non, j'avais pas vu celui-là.
Et Europe 51 et Où est la liberté, qui est effectivement celui avec Toto, qui est beaucoup plus rare, vous avez raison, et qui est tout aussi intéressant, parce que c'est le génie du génie de Rossellini, que de pouvoir passer d'un registre à l'autre. C'est exactement ce qu'il fait avec ces deux films qui sont, non pas contradictoires, mais qui donnent de l'Italie de l'après-guerre, tous les deux, une vision très saisissante, avec, bizarrement d'ailleurs, mais de façon passionnante, deux parcours christiques, c'est-à-dire qu'on a d'une part cette femme qui va dans Europe 51,
cette grande bourgeoise qui va venir s'occuper des pauvres,
exactement, et puis ce Toto qui va essayer de se faire refaire une place au soleil, mais qui ne va pas y arriver parce que décidément la pression sociale est trop forte. Donc ces deux parcours christiques, deux façons pour Rossellini de dire cette façon qu'il a d'envisager le monde très moral et très 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 belle, assurément. Belle édition les deux, notamment grâce à un livret de notre ami, on va dire, Jean Gilly, spécialiste du cinéma italien. C'est tout à fait éclairant, bien sûr, sur ce qu'il nous raconte sur ces deux films qu'il faut découvrir ou redécouvrir. Je répète que c'est chez Tamasa. L'un s'appelle Europe 51, l'autre c'est Où est la liberté.
Une dernière question, Jacques Pieskis.
Bien sûr.
C'est quoi la chose la plus importante que vous avez laissé sauter après dans l'écriture de vos films suivants?
Une exigence. Une façon de vivre, de faire corps avec un sujet, à ce qui ne vous lâche jamais, de jour ou de nuit. Dormir avec, se réveiller avec ces personnages, et les suivre, et les aimer suffisamment, et dans ce mélange de mystère et proximité du personnage de cinéma. Oui.
Merci beaucoup, Jacques Pieskis.
Merci beaucoup.
Passionnante participation. Ouais. Et ces trois super beaux films qu'on peut retrouver en DVD.
Revoyez-les, bien sûr, sans problème. Oui.
Eh bien, merci. On vous laisse les clés du générique, Jacques Pieskis. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Jacques Pieskis, j'y étais.